ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apothem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Encore une fois, merci d'être venu. On a une place pour tout le monde, c'est rassurant. Donc, je fais un petit rappel. Donc, vous êtes ici chez nous, hein, chez 50A.fr. On est une agence digitale et on fait un peu de blockchain. Alors, on fait un peu d'acculturation, on fait du prototype et on gère aussi des événements comme on fait aujourd'hui. Mais pourquoi Blockchain and Friends ? Alors, Blockchain and Friends, on s'est dit, c'est avant tout une affaire de copains. Donc, on a des copains start-up, hein, comme on a vu jusqu'à maintenant, et on a aussi des copains grands comptes. Et donc, un copain de longue date, Emmanuel Gaden, qui travaille à la SNCF Digital.
Merci Nicolas, bonsoir à tous. Donc, je suis Emmanuel Gaden. Je travaille donc pour SNCF Digital. Donc tout d'abord, je reprends un peu l'introduction de Nicolas en première partie. Donc en 2008, avec Nicolas et les explorateurs du web, on a exploré donc les monnaies qui circulaient sur Internet, le tout au lard et ensuite les explorateurs, qui sont des monnaies en fait pour, témoigner du fait qu'on est content que quelqu'un ait fait quelque chose pour nous. Ou animer des communautés. Donc on a des vidéos même sur YouTube qui datent de 2008. Et après, on a fait circuler donc nos monnaies complémentaires sur Twitter principalement, avec l'aide de développeurs. On s'est un petit peu arrêté là malheureusement. Donc malheureusement, je ne suis pas Satoshi Nakamoto, je n'ai pas écrit le livre blanc. Et je n'ai pas créé la blockchain Bitcoin, je me suis un petit peu arrêté. Et j'ai racheté des bitcoins simplement cette année, donc un petit peu tard, malheureusement. Mais c'est pas grave, je suis quand même là pour vous parler de la blockchain dans l'industrie. Donc SNCF Digital, c'est une entité de la SNCF qui travaille sur des nouveaux thèmes digitaux à lancer en quatre étapes. En fait, il faut choisir d'abord un thème entre nous. Donc actuellement, par exemple, on hésite entre des thèmes comme l'identité numérique, comme des thèmes sur le digital responsable, etc. Une fois que les thèmes sont sélectionnés, on rentre dans une phase d'exploration qui dure 3 mois, qui est une phase d'étude, de connaissance du marché, détection des startups et recueil de tous les cas d'usage dans les métiers de la SNCF. Ensuite, on rentre dans une phase d'incubation. L'incubation dure entre 6 et 12 mois. Donc là, typiquement, la blockchain, elle est dans la phase d'incubation. Donc ça veut dire que pendant 6 à 12 mois, on va définir complètement notre stratégie digitale à la SNCF. On va proposer la suite. La suite étant en fait la diffusion des technologies et des compagnies qu'on aura retenues, ainsi que la mise en place de plusieurs projets. Donc à titre de démonstration, on va simplement mettre en place un ou deux MVP, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des minimum viable products, qui permettent de prouver à nos métiers que déjà, il y a de la valeur à faire de la blockchain. Ensuite, on rentre dans donc la quatrième phase, qui est une phase de diffusion, où on prépare vers une entité industrielle le fait que les technologies blockchain qu'on a retenues et les partenaires aussi, souvent les partenaires par exemple de réalisation, développement, vont pouvoir ensuite adresser tous nos métiers. Donc quand je dis les métiers de SNCF, je vais vous les présenter ensuite à travers de cas d'usage. Donc mon objectif dans les 30 minutes qui me sont imparties, sachant que je n'ai pas lancé le chronomètre, ça va être de vous présenter, 5 choses. Alors j'ai déjà fait combien de minutes ? Ok, c'est bon. Donc première chose, il ne faut pas que j'oublie, donc c'est en fait une offre de benchmark et de RFI. Donc request for information, nombreuses sont les sociétés qui ont envie de travailler pour la SNCF ou de rajouter un petit logo SNCF sur leur plaquette commerciale. Donc sachez que jusqu'à à peu près la mi-décembre, le 20 décembre, je ne sais pas exactement, vous avez un benchmark sur lequel on vous appelle pour vous dire voilà, si vous avez une expérience dans la blockchain, à quel niveau, conseil stratégique, réalisation, exploitation, etc., sur quel protocole, Bitcoin, Ethereum, privé, public, Hyperledger, etc. et surtout pour quel projet et pour quel secteur d'activité. Sachant qu'on est intéressé par exemple par le secteur d'activité des transports, mais pas que, parce que comme la société SNCF a plus de 120 000 personnes, on travaille sur tout un tas de choses, voilà, les RH, la preuve, etc. Enfin, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt une offre que je vous fais. Alors si vous voulez participer à cette offre-là, il faut aller sur mon compte Twitter, qui est le compte Twitter EGADEN, E-G-A-D-E-2-N-E. Et je vous ai mis mon dernier tweet, c'est en fait justement le moyen d'accéder au lien pour dire voilà, je suis la société, par exemple, je sais pas, Cinquanta ou autre, et voilà mes références dans la blockchain et j'ai envie de travailler avec la SNCF. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous dire. Deuxième chose, c'est en fait trois cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le Mobility as a Service, souvent abrégé sous la forme MaaS, qu'on a étudié avec une grande métropole, qui est la métropole du Grand Lyon, dans le cadre d'un hackathon. Donc il faut savoir que la métropole du Grand Lyon, en fait, elle dit la mobilité, ça sert à rien, ça sert à faire quelque chose. Donc eux, ils sont déjà partis dans le principe de créer en fait une carte citoyenne. La carte citoyenne, elle permet de conjuguer en fait des politiques publiques de la métropole. Par exemple, de dire, bah, moi ce qui va m'intéresser, c'est de faire travailler ensemble les musées de la ville pour ma politique culturelle, mes piscines que j'ai besoin de remplir et puis qui servent aussi à la santé de mes citoyens, lutter contre la pollution avec EDF et avec les filiales d'EDF qui servent à recharger les véhicules électriques, et évidemment permettre aux gens de se transporter en fait sur du transport plutôt collectif pour faire tout ça. Donc, ils imaginent, et on imagine avec eux, la mise en place d'une blockchain qui engage toutes ces parties prenantes et qui va permettre, en fait, depuis notre application SNCF, par exemple, parce que ça ne sera pas la seule application, de dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller depuis chez moi, mon domicile que vous connaissez, application SNCF, jusqu'au musée Luc Doudoum et de prendre, par exemple, trois places. À partir de là, on va tenir compte de vos préférences, donc ce qu'on appelle, nous, les nouvelles mobilités. C'est-à-dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, par exemple, vous voulez vous préparer pour un voyage au ski, vous êtes plutôt écolo, etc. Donc, on va vous proposer, on va vous trier les offres en disant, ce qui peut t'intéresser, c'est des correspondances un peu longues où tu vas marcher, et puis, par exemple, du bus, etc. Tu vas pas être, je dirais, tu vas pas dire, ah ben non, je peux pas attendre le bus. Alors, si par contre, vous pouvez changer par la suite vos préférences, si en revenant du ski, vous vous êtes blessé au genou, eh bien, vous allez changer vos préférences et on va pouvoir vous reproposer des autres offres. Le principe de cette blockchain, c'est qu'elle va demander à chaque partie prenante de fournir des API. Donc, ça peut être des API assez compliquées, comme par exemple celle de la SNCF. Elle est déjà en Open Innovation et elle vous fournit les horaires. Les horaires à la fois théoriques et puis les horaires pratiques aussi en cas de retard. Mais vous pouvez avoir des parties prenantes qui ont des API très simples, voire des données statiques. Par exemple, le musée Luc Doudoum va dire, nous, simplement, on est fermé le mardi et puis le jeudi, on a une nocturne jusqu'à 22h. Donc tout ça, c'est des données qui sont partagées. Et donc, depuis votre application SNCF, vous pourrez dire, moi, je voudrais aller justement le jeudi soir au musée Luc Doudoum. Et en fonction de mes préférences, qui sont par exemple, admettons, je suis une femme seule et puis j'ai pas trop envie de revenir dans des conditions un peu critiques, par exemple, je vais préférer revenir en VTC, ça me semble plus sécure que de revenir avec le métro, etc. Alors, l'avantage, c'est que la solution est proposée en fait à tous les fournisseurs qui sont engagés comme partie prenante dans le consortium. Donc, le musée Luc Doudoum pourra en fait lui offrir des billets en disant, je vous offre aussi le moyen de venir jusqu'à chez nous et le moyen de rentrer jusqu'à chez vous. De même, la piscine pourra dire, venez à la piscine avec votre véhicule électrique. Et en plus, la ville de Lyon va vous proposer des recharges gratuites parce que leur objectif, c'est que la pollution diminue. Donc, peu importe le prix du courant, finalement, dans ces conditions-là, puisqu'en plus ça aide, je dirais, à la prévention de la santé et aux pratiques sportives dans la ville, eh bien, la recharge est offerte par le Grand Lyon. Voilà, donc on voit en fait qu'ici, il y a une tokenisation aussi qui est en place, avec les moyens d'influencer, entre guillemets, gentiment, les citoyens et de promouvoir ce qu'on appelle des comportements vertueux, c'est-à-dire, par exemple, encourager les gens à faire du covoiturage, etc., pour qu'ils obtiennent finalement des compensations. Ça, c'est mon premier cas. Mon deuxième cas, c'est ce qu'on appelle le carnet d'entretien digital. Donc le carnet d'entretien digital, c'est quelque chose qui existe déjà plus ou moins complexe dans l'automobile ou dans l'aéronautique. Sachant que nous, je dirais que schématiquement, entre une BMW, un Airbus, un TGV, c'est un petit peu au milieu. Donc il faut imaginer en fait un consortium qui embarque déjà aujourd'hui tout un tas de parties prenantes. Donc concernant les trains express régionaux, vous avez en fait la région. Prenons l'exemple de la région, par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, pour que ça soit clair pour tout le monde, qui, en fait, est propriétaire, en fait, de l'offre de transport et qui va promouvoir un certain nombre de politiques publiques aussi au niveau de l'éducation, au niveau de la culture et au niveau de l'aide aux personnes les plus défavorisées. Donc, elle va pouvoir créer tout un tas d'offres en disant « Pour l'éducation, je veux que mes collégiens voyagent gratuitement. » Pour la culture, je veux que les gens ils aient des billets à tarifs hyper réduits pour aller voir la fête des Lumières à Lyon. Et pour les personnes très défavorisées, je veux par exemple que quelqu'un qui soit au-dessus d'un certain seuil de handicap, il ait par exemple 20 tickets gratuits pour pouvoir aller par exemple à l'hôpital de temps en temps quand c'est nécessaire. Donc en fait, nous allons avoir cette première partie prenante qui est donc le propriétaire de l'offre. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des technicentres, donc en gros, c'est le mot SNCF pour dire usine, qui sont de deux types. Vous avez des technicentres de maintenance qui sont chargés, disons, au cours de la nuit, de faire les petites maintenances. Donc ça va de, si vous voulez, vider les poubelles du train jusqu'à les nettoyer, etc. Donc en gros, c'est tout ce qu'on peut faire en une nuit pour les trains qui ne circulent pas la nuit et qui ne sont pas en surnombre. Par exemple, les Ouigo, vous n'avez aucun train en surnombre. Ils ne circulent pas la nuit, ils rentrent tous dans un technicentre et le matin, il faut qu'ils soient tous ressortis. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des technicentres industriels qui, eux, font les grosses maintenances. Et ça va jusqu'à, en gros, démonter complètement un vieux train et remplacer toutes les pièces une par une et recréer le train à l'identique à partir de toutes les pièces. Voilà. Ça, c'est ma troisième partie prenante. Ensuite, j'ai le constructeur qui évidemment fournit le train et qui possède des données que lui seul possède sur la façon dont le train circule. Ensuite, ma cinquième partie prenante, c'est ce qu'on appelle l'entreprise ferroviaire, c'est-à-dire la société qui dit ben « moi je suis en fait les TER, donc les trains express régionaux de la région Provence, Auvergne-Rhône-Alpes, et donc j'ai gagné, entre guillemets, le droit de faire circuler les trains ». Des trains par rapport à des offres qui sont donc créées par la région et par rapport à ce qu'on appelle des sillons, c'est-à-dire en fait des droits à circuler qui sont accordés par SNCF Réseau. Donc SNCF Réseau va dire par exemple vous avez le droit de faire circuler des trains entre Saint-Étienne et Lyon toutes les 10 minutes le matin aux heures de pointe. Et ça correspond à la politique de la région, parce que la politique de la région, c'est de dire bon, bah, y a peut-être un petit peu moins de travail à Saint-Étienne et un peu plus à Lyon. Donc moi, j'impose un train tous les 10 minutes. Vous faites ce que vous voulez. Un train toutes les demi-heures, ça ne permettra pas aux gens de Saint-Étienne de travailler suffisamment. Voilà. Donc là, j'ai mes cinq parties prenantes. J'en ai une sixième, en fait, qui est l'autorité, en fait, de régulation publique. D'accord ? Donc c'est l'établissement public ferroviaire, le PSF, établissement public de sécurité ferroviaire, pardon, qui, en fait, va contrôler de façon légale, qui est un petit peu le bras armé du ministère des Transports, qui va contrôler que, finalement, les trains sont autorisés à circuler en fonction des maintenances qui ont été faites. Parce que là, je vous ai parlé d'un carnet d'entretien, donc de la maintenance. Donc, vous avez là même un nouveau texte de loi là, qui sort et qui dit un train qui est maintenu, il doit avoir ça, ça et ça et ça et ça de contrôler. D'accord ? Donc, je n'ai pas le détail de toutes les données, mais ça pourrait être, par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple théorique hein, qui n'est pas forcément bon, mais par exemple, la pressurisation des portes quand le train est fermé. Et donc, le train, les portes doivent être pressurisées avec tel niveau de pression. Si le niveau de pression il baisse de 30%, votre train, il peut encore circuler, mais au lieu de circuler à 90 km/h, il doit circuler à 40 km/h. Donc on voit qu'il y a un impact, en fait, entre le technicentre de maintenance qui répare le train le plus vite possible pendant la nuit, et puis l'entreprise ferroviaire qui doit faire rouler les trains, et puis finalement SNCF Réseau qui donne en fait les sillons. Parce que si vous essayez de faire circuler un train toutes les 10 minutes en fonction de ce qu'a demandé la région, évidemment, si les trains y roulent à 40 km/h au lieu de 90 km/h, c'est très compliqué. Donc il faut en fait faire fonctionner tout ça ensemble. Et tout ça, ça fonctionne à peu près bien avec les difficultés qu'on peut connaître quand on est déjà voyageur, sachant qu'avec l'ouverture à la concurrence, vous allez avoir, parmi ces 5 parties prenantes, vous allez avoir des parties prenantes qui vont être des sociétés extérieures et qui vont devoir être traitées en fait, à égalité, donc la notion d'équité aussi, par les autres. D'accord. C'est-à-dire que si, par exemple, l'entreprise ferroviaire, par exemple, passe à la concurrence, et que c'est les trains, admettons, espagnols, c'est les trains espagnols qui font rouler tous les trains de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vais y arriver, eh bien, il faut s'assurer qu'au niveau des maintenances qui sont faites par les technicentres de maintenance et les technicentres industriels, eh bien, en fait, ils sont traités avec la même équité que les autres. Parce que, par exemple, le technicentre industriel, lui, va être spécialisé dans le remplacement des moteurs de TGV ou de TER. Et donc, il ne s'agirait pas qu'on dise « Oui, ceux-là, comme c'est des trains qui circulent pour les Espagnols, on les fera après. » Voilà. Notamment parce que en fait, le bras armé du ministère des Transports est chargé, justement, de vérifier que tout ça s'est fait de façon équitable. Enfin, mon dernier cas, timekeeper, où en suis-je ? Thibaut ? Bon, c'est bon ? Ah, ok, parfait. Alors, en fait, il y en a deux en un, mais ça va aller très vite. Donc, le dernier cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le KYC et le Decentralized Identity. Donc, en fait, c'est comment nous allons connaître nos clients. Et comment nous allons nous appuyer sur une des fonctionnalités nouvelles de la blockchain qui est l'identité décentralisée pour faire cela. Donc on revient à notre idée de tout à l'heure qui est que les régions ont un budget transport à gérer plus un budget d'allocation finalement de ressources pour les personnes défavorisées. Quelle que soit leur raison, c'est-à-dire que ça peut être par exemple des demandeurs d'emploi de longue durée. Ça peut être des demandeurs d'asile, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des gens titulaires du RSA. Voilà. Et puis en fonction des régions, ça va être différent d'une région à l'autre, en tenant compte des spécificités régionales. L'idée étant en fait d'aider toujours les populations en situation difficile, notamment avec de l'argent public, et permettre à ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer. Par exemple, les chômeurs de longue durée, ils ont vraiment besoin de se déplacer pour essayer de revenir dans le marché de l'emploi. Eh bien, en fait, on va demander en fait à la SNCF, au travers de la région, de leur offrir, par exemple, 20 tickets de transport gratuits tous les mois. Bon, c'est un petit peu théorique, mais voilà. Donc, on va faire ça en fait avec une blockchain et de la façon la plus simple possible. Donc la mauvaise façon de faire ça aujourd'hui, c'est de faire ça sans blockchain, avec en fait énormément de papiers, énormément d'administratifs. Donc chaque demandeur d'emploi, prenons simplement ce cas-là, qui est un cas simple, va devoir attester en fait de son domicile avec une facture EDF, va devoir attester de sa situation dans le chômage auprès de Pôle emploi avec un deuxième papier. Et malheureusement, tout ça, ça doit être conduit en fait, par exemple, tous les 12 mois. Alors, quand on est sur des populations qui sont en situation très difficile, comme par exemple les chômeurs depuis plus de 5, 10 ans, etc., quand on est sur des situations de populations qui sont demandeurs d'asile ou qui sont non francophones, on va assez rapidement verser en fait dans l'illettrisme aussi, et on va arriver sur des cas où si on veut faire ça autrement qu'au guichet, à coup de papier et de photocopie, en fait... la dématérialisation va poser un gros problème aux gens qui ne vont pas avoir accès à des interfaces, même bien designées, qui sont suffisamment simples. Donc la blockchain va apporter une solution, c'est la solution de l'identité décentralisée. Donc vous avez dans l'identité décentralisée, sur votre téléphone, une application qui s'appelle, par exemple, nous on a étudié Uport, en fait, qui est de la société Consensus. Bon, c'est un exemple, il y en a d'autres. Donc, dans cette identité décentralisée, en fait, vous avez qui vous êtes. votre nom, votre prénom, le fait que vous habitez dans telle ville. Donc déjà, auprès de la municipalité, vous allez être reconnu comme citoyen de la ville de Lyon, par exemple. Ensuite, auprès d'EDF, vous allez avoir une facture d'électricité qui va être certifiée au niveau de la blockchain, sachant qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage qui doit être un petit peu confidentiel, que je ne peux pas vous donner, mais qui est gigantesque, de factures EDF qui sont trafiquées à coup de Photoshop, notamment pour que les gens puissent mettre leurs enfants dans les meilleurs lycées de Paris ou dans les meilleurs lycées de Lyon, etc. Enfin, c'est une voilà. Et donc EDF et d'autres fournisseurs de justificatifs de domicile, comme par exemple La Poste, sont déjà dans des consortiums qui vont produire demain des justificatifs de domicile téléchargeables, où si vous changez un pixel dessus, tout de suite, voilà, ça va se voir. Ensuite, vous allez... Alors, l'idée, c'est que sur votre téléphone, vous avez en fait votre identité. Voilà, je m'appelle Emmanuel Gaden, je vais à la mairie de Lyon. Et la personne, l'agent de mairie, en fait, me fait flasher un code comme quoi, bah oui, j'habite là. Il reconnaît les papiers que je lui donne. Et c'est pas plus compliqué que de flasher un code barre de dés. Donc même si je suis demandeur d'asile ou illettré ou etc., il peut me montrer comment je flash un code barre 2D. Idem avec mon attestation de chômage que je vais aller flasher chez Pôle emploi. Et l'avantage de toute cette magie blockchain, c'est que quand je vais arriver en fait à la SNCF n'aura plus rien à faire. En fait, la SNCF pourra constater que oui, je suis Emmanuel Gaden, que j'habite bien à Lyon, donc j'ai droit aux offres de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que oui, je suis bien demandeur d'emploi, voilà, sans plus de détails à la rigueur, parce que c'est mon téléphone qui va répondre. Mon téléphone, il va répondre, et donc je vais avoir mes 20 billets gratuits. Et l'avantage, c'est que ça va limiter la fraude aussi, parce que par rapport à toute une offre pléthorique de transport sur la ville de Lyon, je ne vais pas pouvoir aller demander aussi 20 tickets gratuits au métro et 20 tickets gratuits au car. Et donc ça, c'est très important pour les régions, parce que les budgets d'aide aux personnes en situation difficile ne sont pas illimités. Donc elles ont obligation de prouver qu'en fait, elles ont bien dépensé l'argent. Et que ce n'est pas quelqu'un qui a récupéré 60 tickets gratuits au détriment de deux autres personnes qui n'en ont pas eu. Donc ça, c'était mon quatrième cas. Alors, dans le quatrième cas, il y a un cinquième cas qui est en fait beaucoup plus astucieux et qui repose sur ce qu'on appelle en fait le zero knowledge proof. Donc c'est une nouvelle façon finalement de faire de la blockchain et qui est finalement de prouver quelque chose finalement sans dire ce qu'on a prouvé. Donc dans le cas de mon persona Emmanuel Gaden, il va avoir en fait un certain nombre de choses dans son identité décentralisée sur son téléphone. Par exemple, un permis de conduire, un passeport, une facture EDF, comme je disais tout à l'heure, une carte d'invalidité, vous savez pas, peut-être je suis policier, enfin, peu importe, vous savez pas ce que je suis. Et quand je vais aller à la SNCF, en fait, la SNCF va simplement poser une question cryptée, qui est-ce que ce monsieur a droit de circuler gratuitement ou pas dans les trains ? Et mon téléphone va répondre de façon cryptée, oui ou non. C'est tout. Et donc, en fait, ils ne pourront pas savoir si je suis policier, handicapé, demandeur d'emploi ou les trois à la fois. Et de toute façon, comme j'ai le droit de circuler en fait gratuitement, je circulerai gratuitement. Voilà. Et donc, ça permet non seulement à la SNCF d'être déchargée de toute une gestion administrative qu'elle n'a pas envie de faire et qui peut même lui entraîner beaucoup de problèmes parce qu'évidemment, vous avez compris, avoir toutes ces pièces confidentielles par devers soi, en fait, normalement, c'est disons que c'est moyen. Donc, on est obligé en fait de prendre toutes les pièces. On est obligé de donner les tickets et ensuite on est obligé de détruire toutes les pièces immédiatement. Donc voilà, c'est beaucoup de gâchis, à la fois en temps et puis en papier et puis aussi en ce qu'on demande en fait à des gens qui sont déjà en situation défavorable et difficile. On leur dit voilà, tous les 6 mois, tous les 12 mois, il faut ressortir tout ton dossier et puis voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions.
Merci Emmanuel.
Alors là, on a déjà un projet qui est opérationnel, mais je ne vous en ai pas parlé parce que je sais que vous avez plus envie, ça c'était mon point numéro un, de travailler sur nos futurs projets. Donc là, on est plus sur des projets qui sont 2020. En fait, c'est des projets qu'on va préparer, qu'on va faire, qu'on va étudier l'année prochaine. On va les faire plutôt sous forme de MVP l'année prochaine. Et puis après, on va les généraliser. Alors, sachant que je ne l'ai pas dit non plus, mais on va les inclure dans les réponses à appel d'offres. Donc à chaque fois que typiquement on va dire en 2020 c'est ouvert à la concurrence, alors la région par exemple Auvergne-Rhône-Alpes elle dit maintenant moi je suis plus obligé de travailler avec la SNCF, mais la SNCF elle va avoir en fait ses idées digitales un petit peu sous le coude à proposer, et puis si la région est partante après soit on les aura déjà mis en place dans une autre région et puis on pourra facilement les dupliquer, ou soit on les mettra ad hoc en fonction des spécificités demandées par la région. Non, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est des... En fait, la pression de la concurrence, elle est très forte, donc il faut avoir ça aussi en tête, c'est-à-dire que après on peut dire ça aussi, la Deutsche Bahn fait sa propre blockchain pour emmener les gens de la banlieue de Francfort jusqu'à banlieue de Paris, et donc il ne faut pas attendre que nous, à la SNCF, on dise on a une application centralisée qui permet d'emmener les gens de la banlieue de Paris à la banlieue de Francfort pour le retour. Donc ça n'a pas de sens. Donc il ne faut pas que chacun fasse son application blockchain de mobility as a service pour que n'importe qui puisse aller de n'importe où à n'importe où, y compris de Vladivostok à Los Angeles. Donc nous, notre point de vue, c'est de dire la SNCF doit avoir une posture un peu modeste, en fait, et surtout régionalisée, décentralisée, parce que c'est une entreprise très régionalisée, très décentralisée. Et donc, si la ville de Lyon a besoin de quelque chose, on le fait pour la ville de Lyon. Et puis, si après, à côté, on va dire, la ville de Clermont, elle a besoin de quelque chose, on va, voilà. Puis après, on va dire, il y a aussi des gens qui vont de Lyon à Clermont. Voilà, donc c'est essayer d'engager, notamment, par exemple, les VTCistes. Il faut savoir que sur la ville de Lyon, ils sont pas hyper pro Uber. Donc en fait, ils veulent faire travailler les VTCistes locaux, quoi. Les petites sociétés de VTC. Voilà. Oui, alors en fait, on a un fonds d'investissement en fait qui s'appelle 574 Invest. Donc on étudie des startups qui nous intéressent, qui sont pas forcément des startups technologiques. Ça peut être des startups aussi sur tout ce qui peut intéresser un grand groupe de plus de 120 000 personnes. Et ensuite, si on pense à un moment donné que plusieurs métiers en fait de la SNCF vont en avoir besoin, par exemple le réseau, mais aussi les TER, les TGV, les intercités, etc., que ça va défiler, à un moment donné, on peut investir dans la startup. Donc là, par exemple, j'ai connaissance d'une start-up dans laquelle le fonds d'investissement a déjà investi, sachant qu'il est très récent.
Tiens, je vous passe le micro parce que, vu qu'on pense aussi à ceux qui ne sont pas là, on enregistre tout. Voilà pourquoi je vous demande d'utiliser le micro.
Je comprends. Quelle est la taille de l'équipe qui travaille sur les sujets spécifiquement blockchain au sein de SNCF aujourd'hui et comment cette taille va évoluer au cours de l'année prochaine ?
Alors la taille, c'est 1,5. Et vous avez en face de vous le demi. Et pour l'année prochaine, en fait, on va rester à 2. Donc je vais avoir la chance, j'espère, de passer. Hein. Voilà. Et puis, après, comme je disais tout à l'heure, le groupe SNCF est très régional. Donc à partir du moment où il y a des projets qui vont partir à Lyon, à Toulouse, etc., en fait, je pense qu'on va essayer de les faire à deux depuis, entre guillemets, Paris. Et puis après, au bout d'un moment, à force de faire des allers-retours en TGV tout le temps, on va s'appuyer sur d'autres chefs de projets digitaux qu'on a, qui sont spécifiquement en région et qui animent en fait des espaces digitaux qu'on appelle les 574 en fait, et qui sont, on en a 4 pour l'instant en France, mais on va en avoir 5-6 en France. Donc l'idée, c'est d'être vraiment proche du terrain. Enfin, la blockchain, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Donc c'est des gens qui travaillent déjà dans le digital, que ça soit l'internet des objets, le big data, etc. Donc voilà, ils vont être formés à la blockchain.
Et donc vous n'avez pas de développeurs blockchain ?
Non, alors notre objectif au niveau des personnes, en fait, c'est d'avoir des chefs de projet, des directeurs de mission, des architectes, et puis des DevOps qui soient un petit peu formés. Après, pour la partie développement, non, en fait, on n'aura pas de développeurs. Donc on va sous-traiter les développements.
Vous faites des partenariats avec des grosses des gens du CAC 40.
Oui, alors en fait, ce qu'on a fait au Grand Lyon, donc avec la collectivité du Grand Lyon, en fait, on l'a fait avec EDF, on l'a fait avec Bosch et on l'a fait avec Renault Volvo Trucks au sein d'un espace qui est en fait la ruche industrielle en fait de Lyon Vénissieux et qui vise en fait à aider en fait les industries en fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes à mettre en place et ben des nouvelles technologies digitales, mais spécifiquement pour l'industrie. Voilà. Donc ça, c'est une première réponse. Et puis après, on va avoir, à l'issue du RFI, en fait, qui est notre benchmark, là, dont je vous ai parlé au premier point, on va avoir une sélection de partenaires potentiels. Donc aujourd'hui, on a déjà choisi deux sociétés, mais ça couvre qu'un petit aspect de ce qu'on est capable de demander. Et puis après, quand on va avoir des projets, quand on va avoir ce qu'on appelle des requests for proposal ou des RFQ, on va en fait avoir un vivier de sociétés qu'on a déjà un peu préqualifiées et à qui on va dire, ben voilà, on vous envoie notre appel d'offres, quoi, en gros. Sauf si c'est des appels d'offres tellement gros qu'à ce moment-là, il y a des obligations de publication dans des journaux européens et qu'à ce moment-là, bah, toute société européenne peut répondre.
Oui, merci. J'ai une question par rapport à la mobilité as a service et toute la partie identité décentralisée. Je n'ai pas saisi exactement en quoi la blockchain était indispensable pour une partie des services. Et ensuite, est-ce que le smartphone est indispensable? Est-ce qu'une carte citoyenne avec un QR code au dos pourrait suffire? Et s'il faut absolument un téléphone, du coup, qui va distribuer les téléphones à ceux qui sont aux populations en difficulté? Enfin, est-ce que c'est prévu? Ouais.
Alors non, en fait, déjà le téléphone ne sera pas indispensable. En fait, un wallet pourra suffire. Donc on peut imaginer des solutions à base de wallet crypto, mais sachant qu'ils sont pas forcément tous donnés. En fait, les moins chers, c'est plutôt aux alentours de 60 euros. Donc il y aura encore des réflexions à faire, sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans les grandes villes et dans les métropoles, il y a déjà beaucoup de choses qui sont subventionnées par les métropoles. Quand vous allez par exemple à Lille et quand vous dites je veux aller de la banlieue jusqu'à la gare, en fait le distributeur il fait tomber une carte et la carte elle est rechargeable, elle est gratuite, quoi. Voilà. Et après c'est à vous de soit de la recharger, soit de la jeter. Donc c'est un peu comme si on avait l'équivalent d'un pass Navigo gratuit qui tombait tout seul la première fois où vous achetez un ticket. À partir du moment où quelqu'un a décidé que c'était la plaie, les tickets, les gens qui disent mon ticket, il est dématérialisé, est-ce que vous pouvez me le changer s'il vous plaît, blablabla. En fait, on trouve l'argent pour donner en fait des supports. Et en comptant sur le fait qu'il y a quand même ensuite plus de, je sais pas combien, de 80% des gens qui ont des smartphones, y compris dans les populations défavorisées, et qu'à partir du moment où tous ces smartphones seront équipés de ce qu'il faut en matière de NFC, de RFID, etc., et tout ce qui s'ensuit, on pourra aussi faire des économies sur ces cartes, en fait, sur ces cartes Navigo, et on pourra en fait passer directement avec son smartphone. Donc là où la blockchain est intéressante dans le mobility de service, c'est en fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que vous allez en fait pouvoir protéger vos données clients. Donc la SNCF, typiquement, elle a je ne sais pas combien de dizaines de millions de clients. Elle n'a pas envie de donner ses infos clients à Uber. Par contre, vous allez fournir au travers d'API, en fait, d'Open Innovation, des informations sur vos offres. Donc vous allez en gros expliquer à Uber que s'il veut venir chercher quelqu'un à la gare, comme par hasard, il y a un TGV qui arrive à la gare de Lyon à 18h42 et que les voitures, elles peuvent. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que après la decentralized identity, vous avez ce qu'on appelle les verifiable credentials, c'est-à-dire que des autorités vont pouvoir en fait vous donner des certificats vérifiés. Alors ça peut être soit des billets de transport, parce que vos billets ils sont nominatifs avec des places attribuées, donc la SNCF pourra dire oui tu es à la place 45 dans le TGV 1642 et ça je te le donne, et il est que pour toi, et il est valable jusqu'à ce que le train parte et après il est plus valable. Et puis de même les autorités comme par exemple la préfecture, elle peut vous donner un permis de conduire qui est valable. Et si vous perdez vos points, en fait, c'est l'avantage de la blockchain et donc de l'identité décentralisée et des verifiable credentials, c'est qu'ils sont inclus en fait les uns dans les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une révocation automatique de votre permis de conduire qui fait que vous avez une révocation automatique de votre ticket de piscine avec recharge automatique de votre véhicule électrique, puisqu'en fait, vous n'avez plus le droit de conduire. Donc vous vous retrouvez avec de l'argent qui était offert entre guillemets par la métropole qui ne vous est plus offert puisque vous n'avez plus le droit de conduire. Donc c'est ça tout l'intérêt du système, c'est de pouvoir en fait quelque part, si on veut dire, lutter contre la fraude et puis aussi faire en sorte que les comportements vertueux soient vraiment encouragés.
Quel est pour toi aujourd'hui le projet idéal ? Question complètement ouverte, c'est-à-dire que là tu es en train, on voit vous n'êtes pas nombreux mais vous allez quand même sur certains sujets, vous les explorez. Quel est, parce que quand tu, on doit te prendre pour un fou en fait, monsieur blockchain à la SNCF, non je sais pas, on doit dire, mais qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert, parce que finalement tu parles très peu de blockchain en tant que tel, puisque tu parles d'usage.
En fait, la blockchain, elle s'impose chez nous à partir du moment où il y a des logiques de consortium avec des parties prenantes et des partenaires qui, un jour, sont partenaires et puis le lendemain, sont concurrents. En fonction de telle ou telle région, en fait, on va se retrouver, par exemple, partenaire de l'IRIA pour que les gens ils puissent aller de Paris à Lyon et puis de Lyon jusqu'à Milan. Et puis le lendemain, on va dire, non, mais maintenant c'est ouvert à la concurrence, donc les TGV, la société de transport italienne, elle a aussi le droit de faire les trains express régionaux de la région, justement de Lyon ou de Grenoble, etc. Donc la seule solution pour faire en fait de la blockchain, c'est d'arrêter de vouloir en fait être, dominateur, d'accord, et de dire d'avoir une position hégémonique, en fait c'est ça le mot clé, et de dire, de toute façon, vous savez les taxis à Niort, c'est pas compliqué, vous avez des myriades de cadres qui arrivent tous les matins, ils arrivent tous à la même heure par le TGV, et ils veulent tous aller à la Maïf, à la Maf ou à la Massif. Donc, le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Et si les taxis, ils veulent pouvoir se garer devant la gare, ils veulent pouvoir emmener les gens, il va falloir en fait que ces taxis, ils soient vendus en fait par l'application SNCF et que on prenne une commission pour eux. Alors, si on dit ça, en fait, évidemment, c'est horrible. Et la région, en fait, la région de Nord, elle va dire non, mais attendez, vous pouvez pas étrangler comme ça toute ma population, voilà. Et puis éventuellement un peu favoriser telle société de taxis au détriment des taxis indépendants, parce que par exemple, G7 vous a offert une meilleure commission d'apport d'affaires que les indépendants. Donc chaque ville en fait réfléchit en fait à des consortiums, et les consortiums ensuite il faut les accrocher les uns avec les autres. Donc vous avez par exemple une ville qui est dans l'ouest de la France, mais je ne vais pas dire son nom parce que je ne suis pas sûr que ça serait bon, qui a dit nous on va favoriser le covoiturage. On va réutiliser une autoroute désaffectée où les gens ils vont avoir une voie dédiée. Et donc en covoiturage, vous irez beaucoup plus vite qu'avec votre voiture en ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire tout seul dans ma voiture, ce qui représente des proportions immenses, puisque c'est dans chaque voiture, il y a le matin 1,05 personnes. Enfin voilà, c'est l'ordre de grandeur. Donc vous aurez cette voie dédiée, vous aurez cette offre. Et de transport finalement avec des temps qui sont régulés comme les bus, parce que c'est voilà, ça roule. Et en plus, la personne, à partir de son application, quelle qu'elle soit, Blablacar et concurrent, il y a 10 applications, elle pourra dire, moi mon problème c'est d'aller de Vénissieux à Saint-Étienne. Et je veux la meilleure offre. C'est tout. Je ne veux pas savoir si le mec arrive, il arrive avec Blablacar ou avec Wicar, ou c'est pas mon problème. Voilà. Et donc c'est comme ça que chaque ville en fait va développer sa politique publique, qui est d'avoir finalement moins de bouchons, moins de pollution, que les gens ils roulent pas tout seuls dans leur voiture, etc., etc.
Écoute, c'est parfait. T'es dans un timing impeccable. Et en plus, si je ne dis pas de bêtises, Vidal qui va intervenir va venir illustrer d'un point de vue plus technique tout ça. Donc on peut remercier Emmanuel pour la clarté de ses propos.